la présentation du Seigneur. On imagine, c'est le cœur de Joseph et de Marie, tandis qu'ils consacraient leur premier-né selon que la loi le demandait justement. La consécration des premiers-nés, et elle se fait au temple à Jérusalem, c'est combien le cœur de ses parents si saints devait être dans la prière pour confier au Père véritable, au Père céleste, cet enfant qui leur avait été envoyé par lui-même. Consacrer son enfant à Dieu, c'est le consacrer à ce qu'il y a de meilleur pour tous les parents du monde. Et c'est lui donner une protection, une lumière pour avancer sur le chemin de la vie. C'est attirer sur lui les bénédictions du Seigneur. Tout cela, c'est la consécration. Et ce qu'on consacre dans tous les rituels juifs de l'époque et dans toutes les fêtes religieuses, ce n'est pas toujours les premiers-nés, mais c'est toujours les prémices de la récolte, de la vendange, de la moisson, etc., etc. Les prémices. Le premier-né, c'est donc ce qu'il y a de... ce qui sort en premier de nous-mêmes. Il ne faut pas dire le meilleur, parce que ce serait un jugement par rapport aux autres enfants, mais c'est le premier. Donc c'est le commencement de ce qui sera la suite du Christ, suivre le Christ. Consacrer son premier-né, c'est se consacrer soi-même quand on est parent. Parce que c'est le premier enfant qu'on a, c'est vraiment sa date. C'est le fruit des entrailles de la maman, mais pour le père, c'est un peu différent, mais ça revient au même. C'est donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Rappelons-nous, Abraham qui n'hésite pas à offrir son fils Isaac parce que Dieu le lui demande. Et ce sera un sacrifice, et non sanglant bien évidemment, qui préfigure eh bien, ce que sera la consécration des premiers-nés en Israël. Ils sont consacrés parce que, lors de la sortie d'Égypte, ils avaient été, les premiers-nés de l'Égypte avaient été frappés, et les leurs, les premiers-nés des Hébreux, avaient été épargnés. Donc, ils ont une vie qui... ils reviennent à Dieu d'une certaine manière. Quand on offre les prémices de ce qu'on réalise, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on aime, eh bien, c'est comme si on offrait la chose elle-même ou l'être lui-même à Dieu. Donc la consécration, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la fête de la vie consacrée, de la vie religieuse. Et on a choisi, l'Église a choisi... évidemment, la fête de la présentation, Jésus est consacré à Dieu, au Père. De même, les chrétiens, parmi les chrétiens, pas tous, mais certains se consacrent, sont consacrés à Dieu de façon un peu spéciale. Ce sont les religieux, les religieuses. D'abord, la consécration, elle est générale dans le christianisme. C'est la consécration du baptême. Et on est consacré par l'Esprit-Saint qui nous est donné. C'est lui qui nous sanctifie, qui nous consacre à Dieu véritablement. La vocation religieuse n'est que va dans le même sillage que le baptême. C'est pas parallèle, c'est pas à côté. C'est juste une extension, une intensification, dirons-nous. La consécration du croyant en général, du chrétien, c'est... le place automatiquement entre terre et ciel. Bien sûr, on s'occupe des choses de la terre et on doit le faire, mais également de celles du ciel. Et c'est là que la consécration intervient, notre consécration chrétienne. Alors, la vie consacrée qu'on célèbre aujourd'hui, c'est le prolongement du baptême, une sorte d'intensification, disais-je. C'est une consécration radicale. Dieu est l'être le plus élevé, le plus noble que l'homme puisse rechercher. C'est, il dépasse même l'immensité de l'univers. Il dépasse l'incroyable puissance que recèle la connaissance de la matière, c'est-à-dire une science, mais qui ne serait pas comme la nôtre, une science qui serait parachevée. Dieu est tellement au-delà du créé. Il est tellement plus grand. Cette consécration de certains membres de l'Église, eh bien, c'est un témoignage à cette grandeur de Dieu. Que nous, tout ce qui est grand en ce monde, et certes, c'est bon de le rechercher, mais Dieu est bien plus grand que tout cela. La vie consacrée, tranquillement, eh bien, a été instituée pour manifester, pour rappeler constamment à l'Église cette vérité profonde. Elle est issue d'une initiative personnelle de certains croyants. Après l'époque des martyrs, donc l'Église a eu le droit d'être intégrée à la société, elle est devenue avec Constantin quasiment une religion d'État. Mais avec ça, ça veut dire que on n'est plus dans le cadre de la persécution, on risque plus sa vie à être chrétien. Donc, beaucoup de gens le deviennent par commodité, pour faire comme tout le monde, pour obtenir des postes à la cour impériale, etc., etc. Donc, on commence à avoir un christianisme mélangé. C'est plus la ferveur à 100% des premiers temps, des deux premiers siècles. Alors, la vie consacrée est une réaction à cela. Certains chrétiens, eh bien, veulent fuir ce monde qui est trop mélangé, même s'il est chrétien, eh bien, il est trop mélangé encore, il y a trop de comportements humains, d'intérêts personnels dans tout cela. Combien on entend de critiques aujourd'hui encore pour dire, pour dénoncer les chrétiens qui assistent à la messe et qui ensuite, pendant la semaine, font telle ou telle chose, vous vous rendez compte? Certaines de ces choses sont dénoncées à juste titre, mais ça veut tout simplement dire que nous sommes pécheurs, nous sommes partagés continuellement entre les choses de la terre et celles du ciel, et que si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas dans un combat appliqué pour garder un équilibre sur la ligne de crête, eh bien, on risque toujours de basculer du côté où il ne faudrait pas. Oui, il y a ce scandale qui habitent notamment tous ceux qui ne sont pas du tout chrétiens et qui n'ont pas du tout envie de l'être, qui en profitent pour écorcher un peu l'Église et ses membres au passage. Mais parfois, c'est à juste titre. Et alors les chrétiens fervents de l'Antiquité voulaient une nouvelle forme de martyr. Non, évidemment, c'était plus d'actualité. Alors ils sont partis au désert. Ils ont fui le monde et là, ils sont devenus ermites, ils ont inventé la vie érémitique dont saint Antoine est le fondateur, en tout cas, c'est à lui qu'on l'attribue. Tout de suite après, et en même temps, dirais-je, se développe aussi une autre forme de vie religieuse avec saint Pacôme, c'est la vie cénobitique, la vie en communauté. Il y a eu au désert, il y avait tous les modèles, les religieux, les ermites, pouvaient se regrouper autour d'une église pour avoir la messe quand même, le dimanche entre autres. Mais ils formaient une espèce de colonie, en quelque sorte, on appelait ça des lords. C'est-à-dire qu'ils étaient à une distance suffisante pour ne pas se voir ni s'entendre, mais suffisamment proches pour se visiter, pour s'entraider, s'il y avait un malade ou s'il y avait un besoin particulier, etc. Ou pour s'enseigner mutuellement, les jeunes moines allaient trouver les moines plus expérimentés pour leur demander des conseils. Mais ils tenaient leurs cellules tout le reste du temps, c'était pas la vie commune. La vie commune, c'est vivre dans un monastère, c'est le moine. Le bénédictin qu'on connaît bien ici en Occident et en Orient, ça a été la règle de saint Basile. C'est Basile qui les a réunis après saint Pacôme. Donc, Tout ça pour dire que c'est né d'une réaction contre la tiédeur, ou ce qu'il jugeait être la tiédeur. Ça a marqué bien la définition, l'essence même de la vie consacrée, cette fuite du monde, comme on dit, la fuga mundi, fuir le monde. Alors il y a plusieurs formes, il y a la forme, eux c'était physiquement. Comme ça, parce qu'ils disaient, on ne peut pas rechercher Dieu continuellement si on n'est pas dans la solitude et le silence. Et effectivement, même Basile, qui lui est plutôt donc réuni des moines dans des monastères, mais qui sont ou dans les villes ou en tout cas pas très loin, c'est et il y a la communauté des moines eux-mêmes qui forment une société. Donc il a été lui-même quand même obligé de dire que le silence, la solitude, ça comptait beaucoup même pour les moines, et il n'a rappelé ces valeurs-là. Alors j'aimerais vous rappeler quelques des grands piliers de la vie religieuse. La gratuité. Gratuit. Dans un monde comme le nôtre, où tout est payant, où tout doit se faire valoir, la gratuité, c'est un témoignage de quoi ? De la vie future. Tranquillement, la vie consacrée dit, nous on est là pour rendre témoignage de la vie future, de cette vie éternelle, de ce paradis que Dieu nous promet. Alors, on n'est pas au paradis pourtant, mais on veut en parler. On veut vivre de ce climat-là par avance. C'est ça la vie consacrée. Et la gratuité, donc. La gratuité, c'est l'abandon, c'est la liberté. Saint François, lui, il a insisté sur la pauvreté, mais c'est d'abord abandon intérieur, liberté intérieure. Pauvreté au sens des béatitudes, bien évidemment. Et tout cela, cette gratuité produit, enfin, progressivement en tout cas, la destruction de l'amour de soi, qui est une véritable peste de la vie spirituelle. L'amour de soi. Tout le monde aspire au paradis, au bonheur. Mais pour quel motif ? Est-ce pour Dieu, pour l'amour de Dieu ou pour l'amour de soi-même ? Il y a beaucoup qui, c'est pour l'amour de soi qu'on aspire à cela. Le moine, lui, veut se débarrasser absolument de ce parasite qui encombre son cœur. Mais il doit le faire. Il n'est pas né comme la Vierge Marie Immaculée. La verticalité. C'est un second trait, gratuité, verticalité, méditer sur l'éternité, méditer sur la mort. Et avoir toujours comme critère, comme norme de nécessité Dieu lui-même, Dieu unique nécessaire. C'est un des grands slogans de la vie religieuse. Puis il y a le combat spirituel. Donc, à la naissance de la vie consacrée, c'était très clair. Le combat spirituel, c'était la lutte contre les démons. On allait au désert, le lieu des démons, où habitaient les démons, pour lutter contre les démons. On ne luttait pas contre les hommes. Justement, la fuite du monde, ça consistait à fuir tous les conflits qui contaminent le monde, qui en troublent la paix, qui rendent difficile l'exercice des vertus, et les premiers moines voulaient avoir toutes les facilités possibles pour parvenir à la vertu véritable, à une pureté de cœur qui plaise à Dieu. Mais c'était pour faire comme Jésus nous en a donné l'exemple, aller au désert, être envoyé par l'Esprit au désert pour y combattre le tentateur. Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen que de se confronter directement aux démons pour obtenir une purification rapide, à condition, évidemment, d'avoir la grâce de Dieu pour surmonter la tentation. Sinon, c'est l'inverse. Le combat spirituel. Suivre l'agneau. La sequela Christi, comme on l'appelait au Moyen-Âge. Suivre le Christ. C'est le grand programme de la vie consacrée. C'est le grand programme du christianisme, mais c'est le grand programme de la vie consacrée. Dans l'Apocalypse, il est dit des élus qui sont une des figures du consacré. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont vierges. Dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge. Vous voyez, c'est toutes les vertus que le religieux cherche au désert, dans l'Antiquité et maintenant sous diverses formes, évidemment. Suivre l'agneau, c'est rechercher Dieu constamment. La recherche de Dieu doit être quasi obsessionnelle chez un religieux. Bon, chez un laïc, rechercher Dieu, c'est partagé entre ses diverses activités. Mais il faut le faire sérieusement, quand on a dédié un temps à cette recherche de Dieu tous les jours, on a la prière, quoi. Le religieux, lui, n'a pas le droit d'oublier la recherche de Dieu. C'est sa dynamique. Alors, par rapport aux prêtres, souvent, les gens confondent, et même souvent, ils ne savent pas vraiment qui sont les religieux et les religieuses. Bon, ils savent que ça existe, mais en quoi, qu'est-ce que c'est exactement? Surtout pour les religieux qui sont prêtres, comme moi, quelle est la différence? Le prêtre diocésain, lui, il a pour vocation d'animer la structure paroissiale, la structure diocésaine. Il anime l'Église. Il est responsable donc des sacrements et donc de l'administration des âmes, comme on disait autrefois. C'est sa grande responsabilité. Il anime une structure noble, une structure ecclésiale, mais une structure. Le religieux, lui, n'anime aucune structure. Il peut le faire, mais ce n'est pas son vœu. Son vœu, à lui, c'est de vivre d'une manière utopique, une anticipation de cette vie future que nous aurons au royaume des cieux. Pas dans la réussite, mais dans la consécration, comme Jean-Baptiste au désert. Jean-Baptiste, il aurait pu choisir de vivre en famille et puis, le moment venu, d'annoncer le Seigneur. Il a, depuis son jeune âge, nous disent les évangiles, il était au désert. Le désert, c'est donc ce lieu qu'ont choisi les premiers moines. Ce lieu de solitude et en même temps de combat. Ce lieu où on ne vit que pour Dieu, par définition, puisqu'il n'y a personne d'autre. C'est cela un religieux. Alors, on peut occuper des fonctions qui sont intégrées à la structure diocésaine, bien évidemment, à la structure ecclésiale. Je suis responsable d'un petit sanctuaire, mais ça ne me définit pas ça en tant que religieux. Ça, c'est une activité que j'ai à côté, on va dire. Alors donc, aujourd'hui, revenons au Seigneur qui est présenté au temple avec ce cœur de Marie et de Joseph. Eh bien, offrons les prémices de notre vie, les prémices de notre cœur au Seigneur aujourd'hui au cours de cette Eucharistie.